Bienvenue comme chaque semaine à l'écoute d'Alter Echo, la seule émission qui s'appelle comme ça. Alter Echo, comme toutes les semaines, c'est donc en direct sur Radio Campus 107.2 à Bruxelles à 22h. La rediffusion sur Radio Campus a lieu le vendredi après-midi à 14h. Et il y a désormais aussi une rediffusion sur Radio Panique qui a lieu le mardi dans la matinée. C'est jamais très précis, mais ça vous donne l'occasion d'écouter Panique, c'est le 105.4. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons deux sujets. Nous avons en studio Frédéric Laure, qui est journaliste indépendant. Nous allons principalement parler de Sabra et Shatila avec la plainte qui a été introduite en Belgique, notamment contre Ariel Sharon. Nous aurons des interviews à ce sujet, une réaction téléphonique en direct également du sénateur Jean Cornille, qui revient du Liban. Mais comme nous avons Frédéric Laure en studio, nous allons également parler d'armes à énergie dirigée, un sujet qui fait peur et très intéressant néanmoins, duquel s'est occupé Frédéric Laure. Voilà pour les sujets de l'émission. Voilà, et vous les connaissez désormais, nous avons également les collaborateurs d'Alter Echo en studio, Nicolas et Nicolas, que nous allons appeler Nico et Nicolas pour faire la différence, et Frédéric Laure. Bonsoir Frédéric, bonsoir
Bonsoir.
Nico et Nicolas.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Olivier.
Voilà, donc Frédéric, tu es là principalement pour parler, comme je le disais dans l'introduction, de Sabra et Shatila, la plainte qui a été introduite, etc. Et surtout aussi de la situation des réfugiés palestiniens qui croupissent, on peut le dire, dans les camps libanais et qui sont un peu les oubliés de tout ce conflit israélo-palestinien. Pardon. Mais je le disais aussi, tu t'es beaucoup intéressé à plein de sujets, et notamment aussi les armes à énergie dirigée, avec un dossier qui est apparu dans Science et Vie en octobre 2001 et quelques articles de journaux par-ci par-là. Alors, les armes à énergie dirigée, c'est un nom qui sonne un peu clean, mais qui a beaucoup de raisons de faire peur. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord globalement de quoi il s'agit exactement?
Oui, mais donc sous le vocable armes et énergie dirigée, on rassemble essentiellement des armes qui envoient des faisceaux d'ondes ou de particules, tels des ions, qu'on appelle également des armes électromagnétiques. Voilà, d'une façon générale, c'est de ça qu'il s'agit.
Ce sont des armes qui sont à l'étude pour l'instant, qui sont dans les laboratoires. Intuitivement, on dirait laboratoire américain, c'est justifié?
Pas essentiellement, disons que les premiers à avoir travaillé sur le sujet et avoir pris d'ailleurs dans un premier temps une longueur d'avance sur les Américains, ce sont les Soviétiques essentiellement et tous les pays de l'ancien bloc de l'Est.
Donc ça date pas d'hier, quoi.
Ça ne date pas d'hier, effectivement. On estime que on travaille sur le sujet de façon systématique depuis la guerre de Corée. Mais entre-temps, les Américains ont rattrapé leur retard et aujourd'hui, effectivement, ils travaillent sur ce système d'armes dans des laboratoires comme par exemple le laboratoire de Los Alamos au Nouveau-Mexique qui est le plus connu.
Mais si cette recherche est si ancienne, comment peut-on expliquer le fait que on n'en ait jamais entendu parler sur le terrain et jamais entendu parler tout court d'ailleurs?
Parce que, bien évidemment, ce sont des programmes militaires, donc qui font l'objet de recherches secrètes. Et donc, il y a très très peu de publicité qui est faite autour de ça. On connaît maintenant des exemples d'utilisation expérimentale sur le terrain. La plus connue, notamment l'utilisation d'une bombe électromagnétique durant la guerre du Golfe, qui était testée, en tout cas selon une revue américaine spécialisée dans le domaine qui s'appelle Microwave News, qui était testée contre les installations militaires irakiennes.
Et avec quel résultat?
C'est une bombe qui est dévastatrice dans la mesure où elle émet un champ électromagnétique surpuissant, qui a l'effet d'une bombe nucléaire, en termes de puissance, mais sans en produire les dégâts du point de vue de la radioactivité. Et dans un rayon X, cela détruit, anéantit tout ce qui est matériel informatique, source électrique, électromagnétique. Mais cela a pour effet sur l'être humain de provoquer ce que provoquerait un gigantesque four à micro-ondes, c'est-à-dire qu'il y a un échauffement des molécules d'eau chez l'être humain et en réalité, tout être vivant cuit, littéralement, lorsqu'une telle bombe est utilisée.
Et donc, une fois qu'on a utilisé cette arme, il suffit de reprendre les bâtiments, de changer le matériel informatique, de balayer les cadavres et de remettre des plantes.
Oui, c'est un peu ça. En fait, l'intérêt pour les militaires de ce type d'engin, c'est qu'il ne produit pas de destruction matérielle au-delà du matériel informatique dont on a parlé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de destruction de bâtiments, de structures, d'écosystèmes urbains, ce genre de choses.
Oui, donc les armes à énergie dirigée ne sont pas uniquement non plus comment dire, des équivalents de bombes nucléaires. Ça s'utilise aussi à plus petite échelle et de façon pas nécessairement mortelle. À quoi ça sert dans ces cas-là? Et comment ça se passe?
Oui, alors on les rassemble sous l'intitulé d'armes non létales, c'est-à-dire qu'elles ne tuent pas. Le dernier exemple en date est un pistolet à micro-ondes, ça fait un peu science-fiction, mais c'est comme ça que ça s'appelle, qui a été présenté l'année dernière à la presse par des experts du Pentagone, et le New York Times notamment en a pas mal parlé. Donc c'est un pistolet qui émet un rayonnement magnétique, qui va provoquer une sensation de brûlure de la peau, et qui est utilisé ou qui sera utilisé, d'après ce qu'en disent les experts du Pentagone, par les militaires américains qui seraient impliqués dans des opérations de maintien de l'ordre à l'étranger. Mais on voit évidemment l'utilisation qu'on peut en faire pour repousser des manifestants dans le cadre de manifestations anti-mondialisation et autres. Et d'ailleurs, toute une série d'organisations de défense de droits civiques aux États-Unis se sont déjà alarmées de l'utilisation future de ce type d'armement.
Concernant donc ces groupes de défense de droit civil, il y a naturellement un vide juridique vu que ces armes sont nouvelles. Est-ce que les pressions de ce genre de groupes ont déjà incité certains législateurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ou certains responsables politiques à réfléchir à une législation?
À ma connaissance, pas, et ça justement tient au fait que c'est très très peu connu. Je veux dire, les programmes militaires qui entourent ce type de recherche sont classés secret défense. Et bon, je pense qu'en ce qui concerne l'information qui est faite vers le grand public et vers les organisations de défense des droits civiques, on est à ces balbutiements. Donc, non, à ma connaissance, pas, mais bon, je sais qu'il y a une réelle inquiétude à ce niveau-là qui se fait jour maintenant.
Dans le cadre du contrôle des foules, il n'y a d'ailleurs pas uniquement non plus ces armes à énergie dirigées. Il me semble qu'il est question aussi d'armes gazeuses qui agissent sur l'odorat et qui créent une certaine panique. Il me semble que tu m'en avais parlé aussi.
Non,
Ah
je ne
bon,
vois
bah
pas.
ça devait être autre chose.
Non,
Oui.
par contre, en ce qui concerne ce développement d'armes, il y a une direction aussi maintenant qui est indiquée que les Américains appellent Biological Process Control ou Mind Control. Donc en fait, ce sont des types d'armements qui, toujours en utilisant des faisceaux d'ondes électromagnétiques, seraient susceptibles d'influencer les processus biologiques ou psychologiques de l'individu.
C'est sans doute de ça qu'il s'agissait. De quelle façon concrètement?
En fait, c'est extrêmement technique. J'ai interrogé plusieurs scientifiques à ce niveau-là qui, eux, sont sceptiques et considèrent que c'est de la science-fiction à l'heure où on parle. Cela dit, que ce soit réalisable ou pas, je pense que ce qui est inquiétant, c'est de voir que les militaires, d'une façon générale, et les militaires américains singulièrement, investissent des sommes considérables dans ces recherches. Donc, c'est qu'ils pensent un jour aboutir à un résultat.
Oui, je suppose que les sommes exactes ou les proportions dans les budgets de recherche sont totalement secrets.
Oui, bien sûr, on a quelques exemples et ça se chiffre toujours en milliards de dollars, mais les budgets exacts ne sont pas connus. Et d'ailleurs, souvent, il s'agit de ce que les Américains appellent des black budgets, c'est-à-dire ce sont des budgets sur lesquels même le Congrès américain n'a pas un regard véritable.
Donc tout ça, pour la majeure partie, se trouve encore à l'état de test de laboratoire. Pour quand est-ce qu'on pourrait s'attendre à une application, disons, généralisée? Ou est-ce qu'on peut la craindre? Et deuxièmement, si oui, à quel terme est-ce qu'il faut s'attendre à voir ça?
C'est encore difficile à dire. La plupart des experts pensent que ce type d'arme va intégrer la panoplie des forces militaires très très prochainement. Il y a par exemple le cas de fusils électromagnétiques ou à tir laser qui ont déjà intégré l'armement américain. On a des exemples par exemple d'utilisation sur le terrain, notamment en Somalie. Il y a un programme américain, un rapport américain commandé par l'US Air Force qui s'appelle Spacecast 2020 et qui concerne le développement de ces panoplies d'armes. Et donc, il fixe l'utilisation opérationnelle de tout cet arsenal vers l'an 2020.
Comment est-ce qu'on peut se procurer des informations sur tous ces sujets? Parce que par exemple, là, c'est vraiment presque une révélation d'apprendre que une telle bombe a été utilisée en Irak, que de tels fusils ont été utilisés en Somalie. C'est des choses, évidemment, même si ces conflits-là sont parfois surmédiatisés, mais de façon sélective, c'est des choses que le grand public n'apprend jamais. Comment est-ce que d'abord, toi, tu le sais? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un accès à des informations plus amples à ce sujet?
Oui, mais il y a pas mal de choses à trouver, je pense, sur Internet, notamment. J'ai parlé de revues spécialisées, notamment Microwave News, qui est une revue américaine et qui fait du travail d'investigation sur justement le développement d'armements à énergie dirigée. En Belgique, je pense que la meilleure source d'information sur le sujet, c'est le GRIP, donc le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité à Bruxelles, qui a un site internet et qui a des rapports assez documentés sur le sujet, notamment sur un programme américain qui s'appelle ARP.
ARP.
Non, H2ARP.
D'accord.
Et je pense que le site de mémoire, ça doit être 3xw.grip.org.
Et aurons-nous la chance de voir ce type d'armes arriver en Europe bientôt? Est-ce qu'on a des informations là-dessus ou est-ce que c'est un terrain de recherche strictement américain jusqu'ici?
Non, pas du tout. Dans le cadre de mes recherches, moi, j'ai découvert que les Français travaillaient notamment activement là-dessus dans leur centre de Bédès-Gramat dans le Lot-et-Garonne où ils font des recherches sur, disent-ils, des systèmes de contre-mesure, donc qui permettent de se défendre contre l'utilisation de telles armes. Mais moi, les experts que j'ai consultés, eux me disent que il est impossible de mettre au point des systèmes de défense sans d'abord avoir mis au point des systèmes d'armes pour agresser à ce moment-là.
Et si, y a des systèmes de contre-mesure qui sont réalisables, est-ce qu'on risque à terme de voir apparaître une nouvelle course aux armements d'un autre type, ni conventionnel ni non conventionnel?
Bah oui, ça me paraît clair. Dès lors qu'une puissance va pouvoir mettre en avant un tel arsenal, bah il est clair que ses concurrents directs vont essayer de rapidement combler leur retard.
Donc les budgets militaires ont de beaux jours devant eux.
Oui, certainement.
Ça va. Merci beaucoup pour ce petit intermède, disons. Avant de passer au sujet principal, qui a surtout été préparé par Nico en mon absence. Donc, Nicolas, explique-nous un peu en quoi consiste la pièce de résistance du jour.
Alors, en fait, c'est justement c'est Nicolas qui va devoir parler un petit peu ce coup-ci. Il nous a préparé une petite introduction. Je reviendrai un peu plus tard.
Bah, plus globalement, le sujet du jour, c'est principalement la plainte qui a été intentée donc contre Ariel Sharon. On le sait tous qu'il y a eu deux plaintes différentes. D'abord celle du 1er juin, qui est due à un comité de ressortissants palestiniens, libanais et marocains. Et puis la plainte du 18 juin, qui donc a été déposée contre Ariel Sharon, qui était justement responsable de la défense à l'époque.
Donc, plainte déposée, je le précise, devant les tribunaux belges,
Oui.
ce qui peut paraître
Ce qui
paradoxal.
peut paraître tout à fait paradoxal et j'en reviens, donc c'est ça toute la difficulté et l'intérêt donc de ce procès, c'est que donc c'est un procès qui est intenté en Belgique devant la justice belge en vertu des lois de compétence universelle qui ont d'abord été votées en 93 et amendées en 99. Alors Sharon est naturellement accusée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le massacre de Chabra et Shatila en 1982, qui s'est déroulé quand même pendant 2 jours, du 16 au samedi 18. Les chiffres sont flous quant au nombre de morts, ils oscillent entre 800 et 1000 morts. Donc, première chose, par rapport à ce procès, le procès pose un problème qui est politique, naturellement, car depuis ce moment-là, les tensions diplomatiques entre la Belgique et Israël sont à leur comble. Par ailleurs, ça pose également un problème juridique, étant donné que l'État d'Israël considère qu'il y a une certaine ingérence dans cette affaire.
Est-ce que tu peux
Premièrement,
éventuellement expliquer le principe ou le concept de compétence universelle?
voilà, alors mais je pense que Frédéric Laure est assez au courant de cette affaire aussi, puisqu'il revient de Sabra et Shatila. Alors, l'idée de la compétence universelle dans les grandes lignes, c'est que les tribunaux belges peuvent recevoir des plaintes à l'encontre de personnes qui ne sont pas, qui, à l'encontre de crimes qui n'ont pas forcément été perpétrés sur le territoire belge et qui n'ont pas forcément été perpétrés à l'encontre de citoyens belges. Donc, c'est un procès qui peut avoir lieu en Belgique, mené par des tribunaux belges, sans aucun lien de rattachement au sol belge.
Par ailleurs aussi, cette loi de compétence universelle, un article qui est l'article 5, qui, donc je le cite, l'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la présente loi. Et c'est ce qui se déroule actuellement dans le procès Sharon. On en reviendra, mais c'est le principal reproche que l'État d'Israël, les avocats de Sharon font à ce procès, c'est que Sharon est actuellement Premier ministre et qu'il est, entre guillemets, démocratiquement élu. Un autre problème par rapport à cette loi, c'est que donc l'État d'Israël considère que ce massacre a déjà été jugé par une commission. Tout ça, on en parlera naturellement plus tard, qui est la commission Kahane, mais qui est une commission douteuse, car principalement composée de militaires ou de responsables politiques de l'époque, donc sans véritable indépendance juridique. Et puis, il y a un problème concernant cette loi qui est aussi le reproche qu'on fait en Belgique que la loi de compétence universelle pourrait devenir un réceptacle de plaintes. Et on a bien constaté qu'il y a eu plusieurs plaintes contre Sharon. Face à ça, il y a une réaction de groupes israéliens soutenus soi-disant pas par l'État d'Israël contre Arafat. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a une pléthore de plaintes. Donc ça, c'est un peu un cadre global. Naturellement, ces points, on va revenir un peu plus tard. Nicolas, pour un peu dégager les tendances principales, tu as d'abord rencontré différentes personnalités qui t'ont un petit peu parlé avec leur point de vue, leur sensibilité personnelle de ce procès.
Voilà, la première personne que vous allez entendre, donc je l'ai interviewée il y a 2 jours, enfin non, c'était hier, on ne sait pas grand-chose de son point de vue personnel, puisque c'est l'attaché de presse de l'ambassade d'Israël.
David Saada,
Non, il s'appelle Laurent Reichmann,
son
c'est
collègue.
son collègue, oui, je pense que l'autre est très occupé pour le moment. Et donc lui développe en fait la position officielle qui est défendue par Israël à l'heure actuelle face à cette plainte.
Tout d'abord, en ce qui nous concerne, nous estimons que cette plainte remet en cause la légitimité de l'État d'Israël, c'est-à-dire qu'elle conteste en fait le fait qu'Israël soit un État de droit. Et je m'explique. En effet, en 1982, sous la pression d'ailleurs de l'opinion publique de la démocratie israélienne, qui était très choquée par les massacres de Sabra Shatila, une commission a été instaurée par loi en Israël, qui est la célèbre commission Kahane, qui a donc auditionné des centaines de témoins, qui s'est déplacé au Liban, etc., et qui a déjà à l'époque conclu à une responsabilité indirecte de Ariel Sharon. Décision suite à laquelle Ariel Sharon avait démissionné de ses fonctions de ministre de la Défense. Nous estimons que cette affaire a déjà été jugée donc en Israël par une commission qui avait valeur de tribunal, puisqu'elle était, ce n'était pas une commission parlementaire d'enquête, mais effectivement une commission qui avait toutes les prérogatives de mener une instruction et de décider éventuellement de poursuite au niveau judiciaire ou criminel, ce qui n'a pas été décidé. Il a été jugé par cette commission, qui a donc conclu un non-lieu, puisqu'elle n'a pas conclu que des poursuites judiciaires pour les faits de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc., soient donc retenues. Donc pour nous, il s'agit d'une affaire classée, et selon le principe non bis in idem, une personne doit être jugée une deuxième fois. Et remettre en cause cette décision de la commission ou les conclusions de la commission Kahane, c'est finalement s'attaquer à la légitimité même de l'État de droit qu'est Israël. Donc, c'est remettre en cause son système judiciaire. Et là, en tant qu'État souverain, nous ne pouvons pas ne pas être d'accord avec ce procédé. Deuxièmement, on s'étonne de ce que cette plainte ait été déposée 19 ans après les faits. En effet, la loi date de 93, elle a été modifiée en 99, et il nous apparaît qu'on a attendu que Ariel Sharon soit Premier ministre pour déposer cette plainte. Cette plainte aurait pu être déposée depuis très très longtemps. Et en effet, à travers la personne du Premier ministre, on veut remettre en cause la légitimité de l'État d'Israël. Et on constate que là où le nom d'Israël apparaît même de manière indirecte ou présent sur les lieux, ou des notions comme on aurait dû prévoir, etc., que là, évidemment, une plainte est déposée avec faste, avec à l'appui des reportages sur la BBC, parce que le timing n'est pas innocent dans toute cette histoire. Vous savez comme moi que le reportage à la BBC qui a été diffusé, où on accuse donc Sharon d'avoir trempé dans les massacres de Sabra Shatila, a été diffusé une semaine à peine avant le dépôt de la plainte devant le tribunal ici à Bruxelles. Donc tout ceci, pour nous semble une orchestration de la part de certaines forces qui, encore aujourd'hui, ne nous acceptent pas au Proche-Orient. Aujourd'hui, une très large majorité des Israéliens, quand je dis très large, je parle de plus de 70%, d'abord soutient Sharon en tant que Premier ministre de l'État d'Israël. Paradoxalement, d'ailleurs, le soutien populaire a grandi. Ariel Sharon a été élu, je pense, avec 62% des voix, et aujourd'hui, tous les sondages le créditent de plus de 70% des intentions s'il devait se représenter en tant que Premier ministre. Donc ça veut dire que, assez paradoxalement, bon, l'insécurité sévit, l'insécurité est omniprésente dans les rues d'Israël, mais quelque part, l'homme de la rue, dans un réflexe qu'on peut bien comprendre, puisqu'il se sent menacé dans sa vie quotidienne, se raccroche à l'image sécuritaire qu'il essaye d'imposer et qui présente à la population. Bon, Israël est une démocratie, il y a des opinions, mais disons qu'aujourd'hui, autant à l'époque des massacres de Sabra Shatila, quand ces événements étaient donc à la une, autant il y a eu un réflexe au sein de la population israélienne de dénoncer ces massacres et d'exiger que toute la lumière soit faite, autant aujourd'hui, l'opinion publique israélienne estime que cette affaire a été jugée et qu'il n'est nullement opportun de semer le moindre doute quant aux travaux de la commission Kahan. Et on estime en Israël, à juste titre, qu'il n'y a pas lieu de rejuger cette histoire ou de rouvrir cette parenthèse. Pour le moment, il me semble que le processus de paix est moribond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour le moment, on est dans une impasse claire, puisque d'un côté, les rues d'Israël, l'Israélien est menacé dans son existence quotidienne. D'autre part, sur le plan diplomatique, il n'y a pas de proposition vraiment qui soit lancée ou parrainée par une grande puissance. Donc, pour le moment, on est vraiment dans l'impasse et nous ne sommes pas très très optimistes pour l'avenir.
Donc là, c'était le témoignage donc du représentant de l'ambassade, un des représentants de l'ambassade d'Israël en Belgique. On constate dans son argumentation déjà une chose très claire, c'est que l'argumentation de l'État d'Israël est très proche de l'argumentation de l'avocat de Sharon. Déjà, chose étonnante, Sharon a son propre avocat qui est Michel Hirsch, qui donc elle aussi juge que la Belgique n'a pas compétence de juger Sharon étant donné qu'il est pour l'instant au pouvoir d'Israël et parallèlement que c'est une sorte d'ingérence dans les affaires israéliennes, mais l'État d'Israël s'est quand même senti concerné par l'affaire, tellement concerné qu'ils apparemment, eux, ont engagé leur propre avocat, qui est Massé, et qui, lui, a plus ou moins le même type d'argumentation. Donc, déjà, chose étonnante, pourquoi finalement un procès qui est intenté contre un chef d'État concerne l'État jusqu'au point que l'État d'Israël va prendre son avocat personnel?
Par ailleurs, pour rebondir de nouveau sur l'argumentation, bon, évidemment, on aurait voulu élargir peut-être le débat ce soir, quoique la question est très large, mais on n'a pas pu avoir les invités souhaités représentant la communauté juive de Belgique. Donc, on va se limiter à quelques commentaires. Mais bon, tout de même, on entend Monsieur Laurent Reichmann qui expose donc l'interprétation officielle, qui insiste très fort sur la légitimité de la commission Kahan. Que la délégitimer revient à délégitimer le fonctionnement démocratique en Israël. Pour précision, cette commission était dirigée par le président de la Cour suprême de l'époque, un juge très important à l'époque, qui est l'actuel président de la Cour suprême, ainsi qu'un général de réserve, tout ça assisté par une équipe de juristes de haut niveau. On peut en effet imaginer que cette commission était chargée d'un poids politique assez important. On va entendre maintenant le point de
Ce
vue.
qu'il faut aussi ajouter concernant cette commission, c'est qu'il oublie de souligner quand même que la commission a quand même remarqué une responsabilité personnelle de Sharon dans ce massacre. Donc, il reconnaît la responsabilité personnelle sans l'avoir accusé de quoi que ce soit, mais cette commission est tout de même un petit peu soucieuse de ce qui s'est passé, même si elle peut être contestable et contestée. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'elle a quand même souligné une responsabilité d'Ariel Sharon.
Juste pour ceux qui soit nous prendraient en cours, soit ne connaissent pas vraiment le sujet, est-ce qu'on peut rappeler en 2 minutes, disons, exactement de quoi il s'agit, ces massacres de Sabra et Shatila? Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans les faits, disons? Frédéric Laure
Oui, mais donc les faits se situent en septembre 1982. Donc à cette époque-là, Israël, Tsahal, l'armée israélienne, a envahi le sud Liban et monté jusqu'à Beyrouth et occupe une partie de la ville. Alors en accord avec les forces libanaises dirigées par Elie Obeika, qui vient d'être victime d'un attentat ces derniers jours. Les forces libanaises et particulièrement les milices maronites chrétiennes, les phalanges comme on les appelle, ont pénétré dans les camps de Sabra et Shatila, officiellement et de l'aveu même de M. Sharon, qui l'a exprimé comme tel devant la commission Kahane, pour en chasser ou capturer des terroristes présumés à l'intérieur de ces camps. Ces phalanges donc ont pénétré et à partir du moment où elles ont pris possession et position dans Sabra et Shatila, elles ont perpétré un massacre qu'on connaît durant une quarantaine d'heures. Alors tout à l'heure on avançait des chiffres, c'est très flou hein, le nombre exact de victimes.
Comment ça se fait? Il suffisait pas de les compter au sol?
Non, parce que dans le lot, il y a énormément de disparus, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qu'on n'a jamais revues après le massacre. Et donc, il est assez difficile d'en faire la comptabilité. Mais les chiffres vont de 450 pour l'estimation minimaliste à 3 500 pour l'estimation maximale.
Voilà, donc après avoir entendu ce représentant de l'ambassade d'Israël à Bruxelles, après avoir entendu toutes les questions qu'il posait, peut-on délégitimer le travail de la commission Kahane? Pourquoi avoir attendu 20 ans avant de porter plainte, etc. Pourquoi s'en prendre en premier chef à Ariel Sharon alors qu'il y a d'autres responsables du massacre? Autant de questions que j'ai été posées à un membre de l'ASBL Justice et Paix pour le peuple palestinien qui porte donc plainte contre Sharon avec les plaignants réfugiés au Liban, et une avocate, maître Marie-Christine Warlop, qui assiste cette ASBL dans son dépôt de plainte.
Pour nous ou pour les victimes, Sharon est le premier responsable de ces massacres parce que tout le massacre est déroulé sur ça. Pendant qu'il était là, c'est l'armée israélienne qui a fourni les armes aux phalangistes, c'est l'armée israélienne qui a éclairé le ciel la nuit des massacres, le ciel de Sabra et Shatila, c'est l'armée israélienne qui était responsable du secteur de Beyrouth Est parce que c'était occupé par l'armée israélienne. Donc la plainte n'est pas uniquement dirigée contre Ariel Sharon, la plainte est dirigée contre toutes les personnes responsables de ces massacres. Ariel Sharon, Elie Beïka, d'autres généraux dans l'armée israélienne et d'autres Libanais aussi.
Pourquoi avoir attendu autant d'années avant de porter plainte? Ou deux.
Parce que je crois en fait que les victimes des camps, enfin des massacres du camp de Sabra et Shatila ont eu confiance en la justice belge de par le succès suite en fait au procès du Rwanda, puisqu'on a vu en fait que les victimes du génocide rwandais avaient en fait porté plainte ici devant les tribunaux belges et que leur plainte avait été entendue. Et je crois que c'est ça qui a motivé en fait les victimes palestiniennes à faire entendre leur voix, leur souffrance et à demander réparation et justice.
Tout d'abord, la commission Kahane, ce n'était pas une commission juridique, c'était une commission politique. La commission Kahan aussi, dans sa conclusion, a désigné Sharon comme un responsable indirect des massacres de Sabra et Shatila, mais il savait très bien que Sharon est responsable directement des massacres de Sabra et Shatila. Est-ce que vous avez déjà vu un tribunal qui juge un criminel de guerre sans le mettre en prison? Non, c'était une commission politique à 100%. Ensuite, les plaintes qui sont déposées aujourd'hui devant la justice belge ne se limitent pas au massacre de Sabra et Shatila. Il y en a aujourd'hui des massacres quotidiens contre la population palestinienne qui se déroulent dans les territoires occupés. La deuxième plainte que notre SBL a déposée au mois de novembre passé, elle porte au nom des 6 parents des enfants palestiniens tués entre le mois de septembre 2000 et septembre 2001. Et ces 6 enfants sont âgés entre 10 et 15 ans. Ils étaient tués pendant qu'ils se trouvaient, une partie se trouvait sur le chemin de l'école, de leur école, l'autre partie pendant qu'ils se trouvaient dans leur lit, en plein sommeil. Donc les crimes, là aussi, les responsables de ces crimes-là, ce n'est pas uniquement Sharon. Il y a Sharon, il y a les chefs de l'armée, il y a des soldats, il y a des généraux, c'est pour ça la plainte est dirigée contre 15 personnes, personnalités et personnes israéliennes, mais aussi contre toute personne impliquée dans ces crimes. En fait, les recensements de la Croix-Rouge, à ce moment-là, c'était des 1600, 1700 victimes. Il y en avait beaucoup d'autres victimes qui ont été enterrées par leur propre famille. Et donc, les chiffres du gouvernement libanais variaient entre 1700, 1000, pardon, 2700 et 2900 victimes. Il faut noter aussi qu'il y a des centaines d'autres personnes qui ont disparu, qu'on n'a jamais trouvé de traces jusqu'à aujourd'hui.
Je pense qu'on peut quand même, mais je ne saurais pas m'avancer et je n'ai pas envie de le faire non plus, mais je crois quand même que lorsqu'on écoute le réquisitoire de l'avocat général près la chambre des mises en accusation, je crois qu'il était quand même assez favorable pour reconnaître à la Belgique la compétence de pouvoir juger des personnes telles que Ariel Sharon ou toute autre personne dont la responsabilité serait déterminée dans le déroulement des massacres de Sabra et Shatila. Maintenant, il faut voir. En fait, nous attendons tous avec beaucoup d'impatience l'arrêt qui sera rendu.
Si vous prenez tous les rapports des organisations de défense des droits de l'homme, des ONG et d'autres sur la situation actuelle dans les territoires occupés, tout le monde parle, même les lois internationales parlent de ce qui se passe comme des crimes contre l'humanité. Je ne suis pas d'accord que c'est un conflit qui est tellement compliqué, qui est très difficile à comprendre. Non, c'est un conflit qui est simple. Régler ce conflit, c'est très simple. Il faut qu'Israël respecte les résolutions de l'ONU, respecte les droits de l'homme, respecte le droit des Palestiniens à l'existence et le conflit sera terminé. Plus que Sharon appuie sur la répression contre la population palestinienne, en plus que vous avez des gens désespérés qui n'ont plus rien à perdre. Il faut là avoir aussi une différence. Une différence, c'est qu'une avocate israélienne l'a rappelé hier, entre deux sortes de terrorisme. Le terrorisme des désespérés, celui des Palestiniens, et le terrorisme d'État, celui d'Israël. Si Israël se retire, si les Palestiniens ont leur liberté, et c'est ça ce que les Palestiniens espèrent, c'est que de s'en débarrasser une fois pour toutes de cette occupation. Si les Palestiniens arrivent à avoir la justice et la paix, et un État indépendant, croyez-moi, on pourra vivre en paix, et la population israélienne pourra vivre et tranquille et en paix.
Voilà, nous avons au téléphone le sénateur socialiste Jean Cornil qui revient précisément du Liban. Monsieur Cornil, bonsoir.
Bonsoir.
Alors d'abord, dans un premier temps, vous avez peut-être une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre depuis le début de l'émission.
Oui, je voudrais dire une première chose qui pour moi est tout à fait fondamentale et je pense qu'elle est totalement partagée par mes deux collègues sénateurs, Vincent Van Quickenborne et José Dubié, qui m'ont accompagné ces quelques jours au Liban. C'est de dire évidemment que fondamentalement, nous avons été là pour témoigner du respect des droits de l'homme et de la justice internationale, et en aucun cas pour, sous des motifs pervers, entretenir une forme d'antisémitisme réel qui est en train de se développer malheureusement un petit peu partout, singulièrement en France et dans notre pays. Donc j'entendais le représentant de l'ambassade d'Israël. Et c'est clair que pour nous, il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause l'existence, évidemment, de l'État d'Israël, où les Israéliens ont le droit fondamental de vivre, évidemment, dans un État aux frontières sûres et reconnues, mais évidemment dans le strict respect des différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc les Palestiniens ont, et eux ne l'ont pas aujourd'hui, évidemment aussi un droit fondamental à l'existence au travers de la création de leur État. Et donc moi je n'aime évidemment pas du tout cette tendance qui est de dire que parce qu'on s'oppose à la politique d'un gouvernement, d'un État que par ailleurs on respecte et dont on ne met en rien en cause la légitimité, que tout cela, tout ce sentiment serait finalement, toute cette plainte, tout le respect des droits de l'homme, la justice indispensable que doivent avoir les rescapés, les familles des victimes de Sabra et Shatila, que tout cela serait finalement une grande orchestration d'un sentiment d'antisémitisme et d'anti-État d'Israël. Donc je pense que là, c'est quelque chose qu'il faut bien mettre les choses au point. Vous savez, moi, j'ai travaillé pendant plus de 8 ans au Centre pour l'égalité des chances. Je me suis battu contre justement tous les propos négationnistes, révisionnistes, contre tous les actes d'antisémitisme. Je pense qu'il faut bien faire la part des choses et qu'attaquer la politique du gouvernement d'Ariel Sharon n'est en rien, par ailleurs, remettre en cause l'existence même de l'État d'Israël ou pire, prôner de l'antisémitisme.
Mais est-ce que vous pensez que c'est réel, cette résurgence de l'antisémitisme? Parce qu'effectivement, les Israéliens en prennent souvent argument, mais on a l'impression un peu souvent d'une défense. Dès qu'on s'oppose, justement, on a parfois l'impression que ce sont eux qui font l'amalgame. Dès qu'on s'oppose à la politique du pays dont on ne nie pas la légitimité, on est facilement taxé d'antisémitisme ou de ne pas respecter cet État, vous pensez pas?
Absolument, mais je crois que c'est une erreur fondamentale et qu'il faut bien distinguer les choses. Je pense que nous travaillons dans le respect strict, et c'était le sens de notre mission et de tous les interlocuteurs que nous avons pu rencontrer là-bas au Liban. C'était bien sûr, un, de nous informer, de rencontrer des rescapés de Sabra et de Shatila. Vous savez, j'ai rencontré des jeunes Palestiniens maintenant qui ont entre 25 et 30 ans, qui avaient 5-6 ans au moment des fêtes, qui ont vu un certain nombre de choses et qui ont dit effectivement maintenant. Avec effectivement le contexte de la Belgique, avec le succès du procès Rwanda, nous avons progressivement, nous sortons de la torpeur, de la peur, de la crainte, nous connaissons progressivement le courage de nous exprimer, nous avons la force et la volonté de décrire les horreurs que nous avons vues pendant ces 3 jours de septembre 1982. Et je pense que c'est une question de justice internationale, de respect des droits de l'homme, de respect de la loi belge. Et en ce sens-là, mon souci est évidemment que la Belgique ne reste pas isolée avec cette remarquable de loi sur la compétence universelle, mais qu'évidemment d'autres États l'adoptent et qu'on adopte surtout enfin les statuts de la Cour pénale internationale, puisque vous savez qu'il faut que 60 États aient ratifié les statuts dits de Rome pour que celles-ci puissent être mises en vigueur. Et nous l'avons d'ailleurs plaidé au Liban auprès du président de la République, auprès du Premier ministre, M. Hariri. Mais au-delà de tout ça, je ne peux évidemment en aucun cas m'inscrire dans cet amalgame qui serait que parce qu'on critique la politique d'un gouvernement, on met en cause la légitimité et l'existence d'un peuple. C'est le contraire même de toute la démarche politique que j'ai entreprise depuis des années. Donc je ne peux en aucun cas souscrire à cela. Et c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, l'extrême sensibilité du conflit au Proche-Orient est en train de se déplacer comme une onde de choc dans nos rues, dans nos quartiers, dans un certain nombre de pays occidentaux.
Tout à
Si
fait.
vous prenez, et je termine par là, les statistiques, par exemple, de la Commission nationale des droits de l'homme en France sur l'évolution des actes antisémites,
Il y a une
des
forte montée
attentats.
d'antisémitisme en France,
Absolument, c'est tout à fait
c'est
clair.
incontestable.
Depuis la deuxième intifada, depuis septembre 2000, c'est clair que effectivement, il y a là quelque chose de tout à fait préoccupant et de totalement inadmissible, évidemment.
Il y a une
Et totalement.
importation ici en Europe occidentale, particulièrement du conflit proche-oriental. Par ailleurs, Quand, pour revenir à votre voyage, à quel est le titre précis de votre voyage? S'agit-il d'un titre à titre privé, personnel, d'un intérêt personnel, ou cette commission avait véritablement un rôle politique officiel?
Pas du tout. Nous n'étions pas une délégation du Sénat de Belgique. Nous avons été invités à titre individuel comme parlementaires belges par le comité libanais de Sabra et de Chatila. Et donc c'est strictement à ce titre-là, évidemment, que nous y avons été. Nous n'avons en aucun cas engagé le gouvernement ou le Parlement belge à ce sujet. Et je dois dire d'ailleurs que notre objectif était de rencontrer l'ensemble des partis et de ne pas de sentir, je dirais en tout cas, l'extraordinaire intérêt de l'ensemble des autorités libanaises pour ce procès, mais sans jamais s'immiscer, évidemment, dans la procédure judiciaire. Je pense que une des grandes victoires de la démocratie moderne, c'est évidemment l'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir politique, et donc il n'est pas question pour nous de nous immiscer d'une manière ou d'une autre dans la procédure judiciaire qui est en cours actuellement devant les tribunaux belges. Nous avons pensé intéressant d'abord de pouvoir témoigner de ce que nous avons vu à la fois au travers des victimes que nous avons rencontrées, et vous savez qu'ils nous ont décrit des choses absolument abominables, hein, effectivement les statistiques varient sur le nombre de morts, mais c'est vraiment absolument abominable ce qui s'est passé pendant ces 3 jours-là. Donc ça, c'était très important. Pouvoir témoigner aussi évidemment des conditions de vie absolument catastrophiques dans les camps palestiniens, dont beaucoup sont évidemment des réfugiés de 1948, et où là aussi, pour que la tension s'apaise peu à peu, il faudra évidemment trouver une solution, que ce soit le droit au retour, le droit à une juste compensation. Et c'est aussi enfin l'objectif de rencontrer sur le plan politique les différentes autorités du pays. Et nous avons eu la chance de rencontrer le président de la République et le Premier ministre. Nous avons plaidé auprès d'eux, par exemple, pour que le Liban, après 20 ans de guerre civile, c'est tout à son honneur, ratifie justement la Convention internationale sur la Cour pénale internationale. Je pense que c'est extrêmement important. Et donc, c'était un
Quelle
ensemble
a
de
été leur réaction
extrêmement
face à...
positive.
Mais s'agit-il d'accords de principe ou vont-ils vraiment l'adopter?
Ah, écoutez, ça, eux nous ont dit à la fois le président de la République, le Premier ministre et le président du Parlement libanais. Et vous savez que le Liban est un pays d'une complexité communautaire bien pire, si j'ose dire, que chez nous, puisque le Premier ministre est un maronite, le président de la République est un sunnite, le président du Parlement est un chiite, donc il y a une espèce d'accord tacite pour que les différentes communautés soient représentées aux différents niveaux de pouvoir afin de garantir cet équilibre, certes précaire et fragile, mais qui est le seul qui permettra à ce pays de ne plus sombrer comme il l'a fait depuis 1975 dans la guerre civile. Eh bien, l'ensemble de ses interlocuteurs, qui sont quand même le plus haut niveau de l'État libanais, nous ont tous dit qu'ils étaient extrêmement favorables à ce que le plus rapidement possible le Liban ratifie cette convention et qu'ils allaient tout faire pour que cela se fasse le plus vite possible.
Je vous entendais au début de votre intervention soutenir de tout votre poids la compétence universelle unique en Belgique, mais moi j'ai pu entendre pas mal de voix qui s'élevaient contre notamment l'applicabilité d'une telle compétence. Tout d'abord, tout à fait pratiquement en termes de moyens, il n'y a évidemment pas les financements qui pourraient suffire pour tous ces enquêteurs qui devaient enquêter, constituer des dossiers, etc. Et puis, est-ce qu'on ne va pas se retrouver, nous, ce petit pays, comme shérif, devant gérer un tas de conflits dans la géopolitique mondiale? Est-ce que c'est vraiment viable, ou est-ce que le législateur a eu un petit peu la main légère? Est-ce qu'il s'est un petit peu emporté un jour de 1900?
Justement, et soulignant ce problème-là, la Belgique deviendrait peut-être un réceptacle justement des plaintes internationales. Et juste dans ce cas-là, on se rend compte qu'il y a eu des plaintes déposées contre Sharon. Face à ça, des plaintes ont été déposées contre Arafat. Vous n'avez pas peur que ça soit une récupération politique d'une loi qui a, au contraire, une très bonne intention?
C'est possible et je pense que la critique est pertinente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a près de 25 plaintes qui sont déposées contre M. Sharon, M. Arafat, mais aussi M. Fidel Castro, les Khmers Rouges, enfin Rachan Vanni, je pense en Iran. Enfin, il y a énormément de plaintes qui sont déposées. Je pense que sur les droits de l'homme, il ne faut pas en aucun cas transiger. Et c'est vrai que ça apparaîtrait à la fois démesurée par rapport aux moyens judiciaires d'un petit pays en regard de la longueur et de la profondeur des enquêtes à mener par les juges d'instruction, qui est évidemment quelque chose d'extrêmement important pour garantir la crédibilité des choses, comme l'a fait par exemple le juge d'instruction dans le procès Rwanda du mois de mai. Donc je pense que la critique est tout à fait pertinente, mais d'un autre côté, on ne peut pas transiger avec les droits de l'homme. Et je pense que donc l'objectif, comme je vous l'expliquais, n'est qu'évidemment pas que la Belgique reste isolée en ce sens, et que l'objectif est évidemment
justement
que d'autres États puissent prendre des dispositions en ce sens, l'idéal étant évidemment que le plus vite possible, la Cour pénale internationale puisse jouer tout le rôle qui est prévu par le traité l'instituant. Mais bon, la Belgique a fait œuvre de pionnière en la matière. Le procès, je pense, Rwanda a été une expérience judiciaire et surtout de justice humaine tout à fait remarquable. Je pense que ces exemples-là montrent que d'autres pays progressivement pourrait aller en ce sens.
Mais concernant l'applicabilité de cette loi au niveau d'autres États, on voit très peu d'États actuellement qui ont l'air intéressés pour l'appliquer. On avait pensé à la France, mais la France a beaucoup, beaucoup de raisons de ne pas l'appliquer au niveau de sa politique internationale en Afrique. Et par ailleurs, beaucoup de juristes ont pointé du doigt le majeur problème de cette loi, c'est qu'on ne peut pas impliquer aucun homme politique belge. Donc,
absolument.
À ce niveau-là, il y a finalement deux discours, c'est-à-dire que on a voulu très bien faire, et ça me semble peut-être logique juridiquement de ne pas pouvoir attaquer les hommes politiques belges, mais tant que cette loi ne sera pas appliquée dans d'autres États, et je ne vois pas encore beaucoup d'États qui ont l'air vraiment intéressés à l'appliquer, il y a quand même une sorte de paradoxe.
Absolument, mais je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'en matière de droits de l'homme, chaque avancée compte, même si elle est balbutiante, si elle est à la limite illusoire, ou même si elle peut apparaître à certains, aux yeux de certains, un peu comme ridicule. Petit État qui ferait effectivement la justice internationale à lui tout seul. Mais je trouve, à contrario, que l'exemple très concret du procès Rwanda montre que quand même, et je pense qu'il y a peu de critiques qui ont été mises en soi contre la manière dont s'est déroulé ce procès, montre qu'il est évidemment nécessaire que petit à petit, pour que les droits de l'homme progressent dans le monde, un maximum d'initiatives possibles doivent être prises. Mais je vous dis, c'est clair que l'objectif, évidemment, à terme, est évidemment la Cour pénale internationale. Je ferai un autre parallèle. Vous savez, quand certains États ont commencé à réfléchir à la... Ça n'a plus rien à voir, mais il y a une forme de parallèle sur l'instauration d'une taxe Tobin sur les flux financiers des capitaux spéculatifs. Là aussi, on a dit que si ça se faisait dans un petit pays, ça n'avait aucun sens par rapport à la volatilité des transferts financiers internationaux. On constate que petit à petit, dans un certain nombre de pays, des propositions sont déposées, des lois sont même adoptées, et progressivement, on tend, certes de manière hésitante, de manière balbutiante, vers la création progressive, très lente, mais nécessaire d'un premier impôt mondial. Si la Belgique, par son expérience, certes imparfaite, et je connais les critiques d'un certain nombre de juristes éminents, comme par exemple le fait qu'il devrait peut-être y avoir un lien de rattachement entre la victime et la Belgique, ou effectivement la question de l'inégalité entre les accusés étrangers et les potentiels accusés en Belgique, mais malgré tout cela, je pense qu'en cette matière-là, le poids de la souffrance est telle que ces initiatives sont bienvenues parce qu'au moins elles lancent le débat sur la nécessité qu'il n'y ait plus aujourd'hui d'impunité pour crimes contre l'humanité, ou crimes de guerre, ou crimes de génocide, ou qu'il se passe dans le monde. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il y a une démarche politique qui est intéressante, même si bien sûr beaucoup de critiques techniques et juridiques sont fondées.
Eh bien, Monsieur Cornille, un grand merci pour cette intervention. J'espère que vous êtes
resté en ligne de toute façon.
Oui, j'espère que vous êtes un petit peu bien installé. Maintenant, on va laisser la parole à Monsieur Frédéric Laure, qui lui aussi est parti au Liban et va nous raconter ce qu'il y a vu dans les camps et nous raconter la situation de ces réfugiés palestiniens dans les camps. Je pense qu'il y a 4 millions à l'heure actuelle de Palestiniens qui sont déplacés sur les 7 millions de Palestiniens au total. Si vous êtes bien installé, je vous proposerai de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Monsieur Cornille, vous m'entendez?
Oui, absolument, bien volontiers.
Vous restez là jusqu'à la fin?
Absolument, je vais l'écouter sur ma radio.
Ah, d'accord.
Merci en tout cas.
Mais je
Il
vous
vient
en
de
prie.
rester en ligne en fait.
Ah, vous pourriez rester en ligne et alors vous nous dites encore un mot avant la
Parfait,
fin
je
de
reste en
l'émission.
ligne.
D'accord? Ok, à tout à l'heure. Frédéric Leur, alors vous avez été au Liban, je ne sais pas il y a combien de temps, depuis combien de temps vous êtes revenu?
Ben, je suis allé là-bas à la fin décembre dans le cadre d'un reportage réalisé pour la Libre Match.
Et qu'est-ce que vous y avez vu? Quel était l'objet de votre enquête plus particulièrement?
J'y suis allé dans un premier temps donc pour rencontrer certaines des victimes des massacres de Sabra et Shatila, qui sont par ailleurs plaignantes dans l'affaire qui nous occupe. Et puis j'ai également eu l'occasion de me rendre dans d'autres camps que le camp de Sabra, donc qui lui est dans Beyrouth Ouest. Je suis allé notamment à Saïda, dans le camp d'Aïn El Ilwé, qui est le plus grand camp du Liban, et également à Tyr, dans le sud Liban, au camp de Rachidi.
Et qu'est-ce que vous y avez vu? Est-ce que je me suis trompé dans les chiffres ou est-ce qu'il y a en effet 4 millions de Palestiniens déplacés, ce qui est tout à fait effrayant à l'heure actuelle?
Sur le chiffre global des déplacés dans le monde, je ne m'avancerai pas. En ce qui concerne la présence de réfugiés palestiniens au Liban, singulièrement, les chiffres des Nations Unies font état d'environ 365 000 réfugiés actuellement au Liban. Ils étaient 106 000 lorsqu'ils sont arrivés là-bas en 1951.
Alors à l'heure actuelle, je crois savoir que les réfugiés n'ont quasiment aucune possibilité de retourner chez eux. Je pense que ça ne doit pas être alléchant de toute façon comme objectif. Est-ce que c'est exact? Ils ont la possibilité de rentrer chez eux comme ils veulent ou pas?
Non, on connaît le problème évidemment du retour des réfugiés en Palestine. Donc, la problématique actuellement au Liban, c'est que en fait, ces gens vivent, comme l'a dit Jean Cornille tout à l'heure, dans des conditions sanitaires absolument épouvantables, dans des camps de réfugiés qui sont de véritables cloaques. Hein. Sabra et Shatila, c'est un bidonville de 12 000 personnes, où les gens vivent dans des taudis, sans eau courante, sans électricité, sans chauffage, au milieu de décharges publiques à ciel ouvert, avec des égouts qui recrachent leur trop-plein de boue au beau milieu des rues. Ça, c'est pour la situation sanitaire d'une manière générale.
Et qu'est-ce qu'ils auraient comme possibilité de quitter ces camps et de s'intégrer dans la société libanaise?
Ben justement, ils sont victimes de toute une série de lois discriminatoires, votées, dictées peu à peu depuis la fin de la guerre civile en 1990, et qui les privent de toute une série de droits fondamentaux, le droit à l'éducation, le droit à l'emploi, le droit à la propriété. Bon, on peut citer des exemples concrets, hein. Il leur est par exemple interdit de pratiquer à l'extérieur des camps près de 80 professions. Donc les rares parmi eux qui ont eu la chance de faire des études, eh bien doivent tenter d'exercer leur profession à l'intérieur des camps. Alors on connaît par exemple des médecins qui ont ouvert des cabinets médicaux à l'intérieur des camps, qui travaillent pour les Nations Unies, essentiellement pour le Croissant-Rouge. On connaît des exemples d'ingénieurs qui, eux, survivent à l'intérieur des camps en exerçant des petits boulots, en travaillant comme chauffeur de taxi. Certains peuvent travailler pour des sociétés privées à l'extérieur des camps, donc des sociétés privées libanaises ou étrangères, mais le font de manière non déclarée, puisque évidemment il est interdit de les employer. Sur le droit au logement, par exemple, il est interdit à un réfugié palestinien d'acquérir un quelconque logement à l'extérieur des camps. Ceux qui en disposent depuis une loi votée par le Parlement libanais en 2000, lorsque ceux-ci décèdent, leur bien ne revient pas légitimement à leurs héritiers, mais redevient propriété de l'État libanais. L'extension horizontale des camps, pour utiliser une expression légale, est interdite. Et construire en hauteur pour tenté, tant bien que mal, d'absorber la croissance démographique qui est de l'ordre de 3,3% en moyenne par an, est aussi rendu extrêmement difficile dans la mesure où il y a une sorte d'embargo sur les matériaux. C'est-à-dire que quand vous pénétrez dans un camp, les véhicules sont systématiquement fouillés au checkpoint de l'armée libanaise pour s'assurer que vous n'introduisez pas dans le camp des matériaux de construction.
Mais donc, dans un contexte actuel où le conflit en Palestine s'aggrave, j'imagine qu'il y a de plus en plus de réfugiés sur les routes. Ces gens n'ont aucune possibilité de quitter le camp en termes, je veux dire, socio-géographiques. Ils ne peuvent pas quitter le camp, s'intégrer dans une autre société. Ça peut ressembler à d'énormes mouroirs, en fait. Et qu'est-ce qui peut motiver l'autorité libanaise à maintenir une telle situation abominable?
Les explications qui sont avancées diffèrent. Moi, je pense que l'explication la plus plausible tient à ce qu'a expliqué justement tout à l'heure Monsieur Cornil en disant que la société libanaise est une société multicommunautaire et que elle repose sur un équilibre fragile entre ces différentes communautés qui s'attribuent chacun une partie du pouvoir. Et donc pour maintenir cet équilibre fragile entre les différentes communautés religieuses, on a le sentiment qu'il faut conserver à l'écart ces près de 400 000 Palestiniens qui, dans leur immense majorité, sont des musulmans sunnites. Et bon, la plupart des observateurs, et notamment les activistes des droits de l'homme au Liban, pensent que l'intégration dans la société libanaise d'une telle quantité de musulmans sunnites pourrait disloquer plus qu'elle n'est une société libanaise encore fortement meurtrie par 15 années de conflit.
Je crois savoir aussi que Yasser Arafat et l'autorité palestinienne ne sont pas très populaires dans ces camps parce que les gens de ces camps se sentent extrêmement oubliés par l'autorité palestinienne et par tous les projets d'accords successifs qu'il y a eu. Pourquoi cette désaffection?
Bon, écoutez, moi, ce que j'ai constaté sur place, c'est qu'il y a une présence effective de l'OLP et du Fatah, bien que l'OLP ne soit pas une organisation légalement reconnue par les autorités libanaises, donc qui ne considère pas l'Organisation de libération de la Palestine comme un interlocuteur officiel. Mais en dépit de cela, ils interviennent de manière active dans tous les domaines de la vie de ces camps et de ses habitants. Donc, est-ce qu'ils sont effectivement tenus à l'écart des décisions prises par l'autorité palestinienne et l'évolution de la
C'est quand même qu'ils se
situation au Proche-Orient?
considéraient comme les grands oubliés des accords d'Oslo, de White Plantation, etc. Les réfugiés libanais en particulier, apparemment.
Bah, eux, ils ont le sentiment d'être oubliés du monde, hein. De toute manière, plusieurs m'ont dit avoir l'impression de vivre en situation d'apartheid, le racisme en moins et encore. Donc, bon, il apparaît effectivement que ce sont les grands oubliés, hein. La plupart des travailleurs que j'ai rencontrés sur le terrain, de travailleurs sociaux, des gens qui travaillent pour des ONG, y compris des ONG internationales, considèrent que la situation à tout point de vue est pire au Liban, dans les camps de réfugiés, qu'elle ne l'est en Cisjordanie, en Jordanie, voire même dans les territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie.
Monsieur Cornil, une réaction
Ah, moi, je partage tout à fait l'analyse qui vient d'être faite. Je dois dire que j'avais été l'année dernière à Gaza avec la mission humanitaire de l'association Belgique-Palestine, un avion pour Gaza, afin d'y accompagner l'acheminement du matériel médical et d'une ambulance. Et je dois dire ce que j'ai vu au sud de Beyrouth. À Sabra et à Chatila, ce que j'ai vu dans les camps à Tyr et à Saïda, c'est absolu. En plus, il pleuvait, c'est la saison des pluies, il pleuvait, il n'y a aucun égout, c'est dans un état, je dirais, absolument dramatique sur le plan, ne fût-ce que sanitaire, c'est absolument dramatique. Et donc, il faudra, à un moment ou à un autre, trouver une solution pour ces 400 000 Palestiniens réfugiés dans ces camps depuis des dizaines d'années. Et c'est vrai que nous avons voulu aborder à un moment la question avec M. Rafik Hariri, le Premier ministre, et que celui-ci nous a dit, écoutez, la situation, est trop complexe.
Mais donc, on est tous d'accord sur l'aspect tout à fait abominable de la situation. Vous êtes sénateur belge. Est-ce que la... Enfin, il me semble que la communauté internationale a son rôle à jouer, sans quoi je pense que tous ces gens vont mourir dans la plus grande misère. Est-ce que vous ne vous sentez pas complètement impuissant? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est, oui, complètement impuissant et que la construction européenne a complètement loupé le coche, en tout cas sur le cadre, dans ce genre de combat pour les droits de l'homme?
Je pense que ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument reprendre pied dans un certain nombre de pays. C'est sans doute un des problèmes aussi pour essayer de ramener, si j'ose dire, les différents interlocuteurs autour de la table pour recommencer un dialogue, comme ça avait été le cas depuis 1993 avec les accords d'Oslo. Et là, évidemment, l'Union européenne a un rôle extrêmement important. Mais vous savez aussi combien quelle
Un
déconvenue
petit truc peut-être.
a subi la diplomatie européenne et singulièrement la présidence belge à Jérusalem.
Eh bien,
Bon.
merci beaucoup. On va, excusez-moi, mais
Je vous en
on est
prie.
très serré sur le timing. Il y a une autre émission tout de suite après. Un dernier mot, Frédéric?
Oui, je voulais juste ajouter que lorsque je suis rentré, évidemment, j'ai soumis l'analyse qui vient d'être faite à l'ambassadeur du Liban en Belgique pour avoir bien évidemment la position officielle des autorités libanaises. Donc je l'ai interpellé par courrier recommandé, puis je l'ai de nouveau relancé, si j'ose dire, par téléphone. Et à ce jour, je n'ai toujours obtenu aucune réponse concernant la problématique qui vient d'être soulevée.
Voilà, bah il fait pas bon être réfugié palestinien à l'heure actuelle. Monsieur Cornil, un grand merci. Ah, il a raccroché.
Oui, voilà.
Ah, d'accord,
Eh
c'est
bien,
fait.
effectivement, merci pour ce mot de la fin. Merci à Jean Cornil, merci à Frédéric Laure et merci à toute l'équipe d'Alter Echo, je peux le dire désormais. Voilà un nouveau numéro d'Alter Echo qui se termine. Vous pouvez écouter la rediffusion de cette émission sur Radio Campus vendredi à 14h, également sur Radio Panique 105.4 mardi dans la matinée, sans horaire précis. Et puis toujours, j'ai oublié de le mentionner en ouverture de cette émission, le site internet www.collectifaupluriel.net/alter-echo. Voilà, merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cette émission. À la semaine prochaine.